La Grande Table. Olivia Gesbert.
Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette grande table du mardi. Francis Bacon, un peintre prolifique et prolixe surtout. Ces mots, vos conversations, vous les avez enregistrées, notées, aujourd'hui compulsées dans un petit livre qui paraît chez Gallimard avec Bacon. Bonjour Franck Maubert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. De quoi aimait-il parler ?
En fait, il aimait parler de tout. J'étais très surpris dès les premières rencontres, dès la première rencontre, en fait, parce qu'il parlait de tout avec beaucoup de simplicité. Et ce que j'appréciais beaucoup en lui, c'est qu'il aimait la vie avant tout. Donc il évitait presque de parler de peinture.
Et vous avez parlé de tout et vécu aussi des moments ensemble, fait la fête notamment. C'était un bon vivant. On parle souvent de son rapport à l'alcool. Il vous en parlait d'ailleurs aussi.
Oui.
Mais ce n'est pas que ça. C'était pas sa seule gourmandise ou angoisse dans la vie.
Non, angoisse certainement pas. Mais si toutefois l'angoisse était. L'alcool était une angoisse pour lui, mais non. D'ailleurs, il disait que peindre était que pendant qu'il peignait, surtout, il ne buvait pas et il buvait de l'eau minérale, et que ça ne l'aidait en rien.
Vous l'avez cru ?
Quand on me dit quelque chose, en général, j'essaie de le croire, mais.
Voilà.
Non, mais je pense que.
Le croire sans le voir, parce que vous racontez que vous avez vécu pas mal de moments ensemble.
Oui, c'est vrai.
Mais vous ne l'avez jamais vu peindre.
Non, mais d'ailleurs, je crois que très peu de gens l'ont vu peindre. Même parfois, je me demandais comme ça, de manière un peu fantaisiste, si c'était bien lui qui avait peint ses toiles. Mais bien sûr que oui. Mais non, je crois qu'il y a un peintre qui s'appelle Yacoubi, un peintre marocain qui l'a vu peindre. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a rapporté à plusieurs reprises.
Intarissable, Francis Bacon, dites-vous, Franck Maubert, jusqu'à ce que parfois le silence se fasse, le regard s'absente, comme cette fois où il a décrété que de toutes les manières, on ne peut pas parler de la peinture, ça ne sert à rien. L'art est une chose toujours inachevée. D'ailleurs, Bacon n'aimait pas qu'on commente ses œuvres, il refusait souvent les explications narratives. Est-ce qu'il était le seul habilité à parler de sa peinture ?
Le seul, je sais pas, mais enfin, non, on a envie en général, surtout comme à l'époque, moi j'allais le voir en tant que journaliste pour qu'il me livre sinon des secrets, en tout cas quelques bribes de choses sur son travail, mais il était très discret justement parce que il estime que la peinture en fait est un lieu de mystère. Et que chacun peut y apporter sa part de soi et que donc c'était pas à lui de livrer quoi que ce soit, en tout cas.
Et comment entretenir mieux le mystère qu'en changeant régulièrement les versions, en inventant des histoires autour de ses œuvres? Le romancier Jonathan Little, qui lui a consacré un triptyque, trois études sur Francis Bacon, sorties en 2011, aussi chez Gallimard, parle de ce rapport de Bacon à la vérité et peut-être au mensonge.
Je pense pas que l'auteur soit la personne la mieux placée pour parler de ses livres. Moi, j'estime que j'ai vraiment, vraiment pas grand chose à dire dessus. Je trouve que c'est un exercice assez inutile. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur Francis Bacon, qui lui a beaucoup parlé, il y a beaucoup d'interviews. Et en fait, tout de suite, dès qu'on gratte un tout petit peu et qu'on étudie, on voit que Bacon passe son temps à mentir quand il donne des interviews. Sciemment. Donc, il est en train de se livrer un exercice de contrôle sur la réception de son œuvre. Il essaye de dire, vous devez regarder mes tableaux comme ci et pas comme ça.
Et
ça,
vous n'aimez pas mentir ?
Ça m'intéresse pas. J'aime pas mentir et puis j'ai pas envie de dire aux gens comment lire mes livres. Les gens, ils lisent mes livres comme ils ont envie de les lire.
Est-ce qu'il avait un peu verrouillé l'explication, le commentaire sur ses œuvres ?
Oui, mais en fait, il y a une phrase que j'ai retrouvée qui est dans la correspondance de Van Gogh, qui est celle-ci, qui est « Ce que je fais est peut-être un mensonge, mais cela évoque une réalité avec plus de justesse ». Donc c'est dans la correspondance de Van Gogh à son frère, que tout le monde connaît, et c'est une phrase que Bacon avait plus ou moins reprise, puisqu'il m'avait dit en fait « J'utilise des roses, des oranges, qui sont des couleurs fausses, pour mieux appréhender la réalité ». Et voilà, donc ces grands aplats de couleurs, c'est un peu la signification, parce que moi c'est ce qui m'a, je l'interrogeais là-dessus, à vrai dire, voilà, il s'en est sorti comme ça. Alors après, est-ce qu'il ment à chaque fois? Je ne sais pas, je pense pas qu'il mentait, mais enfin... Moi, je pense que son discours, en fait, sur sa peinture a été fabriqué, si je puis dire, enfin, en tout cas, a été la fondation de son discours a été cette longue entretien avec David Silverster. Après, il n'a fait que ressasser. Et auprès de chacun de ses interlocuteurs, y compris moi, il ne faisait que se répéter. Alors, de temps en temps, il ajoutait une petite anecdote, mais voilà.
Et des entretiens avec David Silverster qui étaient réalisés dans les années 50, hein, donc très très tôt.
Oui, je crois que c'est 59, c'est ça, les premiers.
Ouais. Les premiers, oui. Pourquoi vous souhaitiez-vous aussi furieusement le rencontrer? Parce que vous avez beaucoup agi et insisté pour que cette rencontre se fasse.
Parce que, effectivement, c'était furieux de ma part, mais parce que la première fois que j'ai découvert un tableau de Bacon, c'était pas du tout dans un musée ni dans une galerie, c'était au cinéma, c'était sur un film dont on parle encore aujourd'hui pour son côté vénéneux, si je puis dire. C'est Le Dernier Tango à Paris, et c'est une image qui est, je crois, juste avant le générique début. Et j'ai vu cet homme nu, torturé, et ça m'a vraiment frappé, et j'ai voulu en savoir plus, et je me suis intéressé à Bacon. Alors en fait, après, je me suis souvenu, d'ailleurs assez récemment, que j'avais vu déjà des photos et dans un film des images de Bacon. C'est dans le film de Pasolini avec Terence Stamp, mais c'était en noir et blanc, et il feuilletait un catalogue, bref. Voilà, enfin, mais en tout cas, dès que j'ai vu cette image et je l'ai retenue, qui m'a vraiment frappé, j'ai voulu en savoir plus, et je me suis dit que je voulais rencontrer l'homme qui faisait ça, voilà.
Et vous l'avez rencontré.
Et j'ai fini par
le rencontrer. Et il vous a vu et revu.
Voilà, on s'est vu d'abord à Londres, puis à Paris, et puis il m'appelait tôt le matin, 6h30 du matin, parce que je lui avais dit que je me levais tôt, et j'étais très surpris. La première fois, j'ai cru à une blague, évidemment, mais il me parlait de tout, pour reprendre le début de notre conversation, et il me parlait absolument de tout, et là, je sais qu'une fois, on parlait de Godard, il aimait beaucoup le cinéma de Godard, par exemple. Il avait envoyé l'histoire du cinéma par Godard qui venait de paraître, ça l'avait beaucoup intéressé.
C'est votre éditeur. Pas si facile à cerner, hein, Francis Bacon. Vous le racontez, plus vous le voyez, et moins vous arrivez à percer l'énigme Bacon. Il était le fou et le sage à la fois.
Oui. Et oui, c'est un double personnage. On ne sait pas. Il est insaisissable. Il est, je dirais même irrationnel, comme sa peinture l'est d'ailleurs. Hein. Il y a une grande part d'irrationnel. Moi, je n'avais qu'une face. J'avais accès qu'à une face de Bacon, même s'il m'entraînait dans la nuit, dans une de ces nuits comme ça. Mais c'était presque pour parfaire sa légende.
Alors même que le philosophe s'était intéressé à lui dans Logique de la sensation, la rencontre avec Deleuze. Elle n'avait absolument rien produit. À vous, il a parlé plutôt en confiance, et notamment de sa principale source d'inspiration, c'est-à-dire tout et surtout mes lectures. Je lis énormément, vous confiera-t-il. C'est au Bacon lecteur que Pompidou rend hommage aujourd'hui, à l'influence de la littérature sur son œuvre, d'Eschyle à Georges Bataille, de Nietzsche et sa tragédie, sans oublier Conrad ou encore Michel Léris. Il vous parlait de ses livres ou de ses auteurs qui lui étaient chers aussi.
Oui.
Des livres qui avaient compté pour lui.
Oui, parce que je lui demandais quel était le déclic de ses derniers tableaux, et à chaque fois il m'évoquait un auteur différent, très souvent des poètes, parce que il disait que la poésie était un concentré, en anglais ce qu'on appelle shorthand, c'est un concentré d'une idée et qui lui servait de déclic. Mais il n'y avait pas que ça, c'était pas que un vers d'Eliot ou de Yeats ou de Shakespeare, c'était aussi des images, des images de films, des images de journaux froissés qui transformaient et qui réinterprétaient à sa manière.
Oui, voilà, c'est ça. La plupart des toiles d'ailleurs qui sont présentes dans cette exposition ont été réalisées après 70, et il ne faut pas chercher de rapport direct entre la littérature ou les auteurs qui sont lus ou présentés dans l'exposition et sa peinture. C'est plutôt des relations de cause à effet, où on peut imaginer que ces textes créent en lui des images, libérées un imaginaire. Hein.
C'est libérateur, et il cherchait en fait des images très violentes dans tout ce qu'il pouvait lire.
Alors on va l'écouter.
Oui, je pense jamais. Je fais les images et voilà. Les autres peuvent me dire ce qu'ils pensent de mes tableaux et qu'est-ce qu'ils disent. Parce que pour moi, quand un tableau est fini, je le laisse, je pense jamais plus. à ce tableau.
Mais quand je disais plus profond, je pensais à un des portraits comme ceux que vous avez fait de Michel Léris, où l'on voit que vous avez puisé très profondément en lui pour le peindre comme ça.
J'espère, mais c'est pas. Voilà, je suis très content si vous pensez comme ça. Écoutez, je fais la peinture pour moi-même. Je n'ai jamais pensé à gagner ma vie par la peinture. Je pensais toujours, j'aurais forcé de faire un autre métier.
Mais je sais que vous avez détruit beaucoup de tableaux.
Oui.
C'est donc que vous
pas
êtes.
Pas assez.
Vous êtes un peintre très difficile et très exigeant avec lui-même.
Oui, en fond, on a ce mot. Il faut être. Vous savez, je crois, dans la peinture, les meilleures créatures sont des très bons critiques aussi.
Les meilleurs créateurs sont des très bons critiques aussi. Il était dur avec lui,
oui.
Avec lui-même ou avec ses œuvres en tout cas.
Oui, il a beaucoup détruit. Enfin, moi, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il a souvent répété, effectivement.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je pense qu'il avait une très très haute idée de ce qu'est l'art et la peinture particulièrement. Que quand il a eu la révélation avec, quand il a vu dans les années 20 les tableaux de Picasso dans une galerie de la rue Boétie chez Rosenberg, il a eu une sorte de révélation. Il s'est dit je veux être peintre, parce qu'avant il faisait du mobilier un peu à la Charlotte Perriand ou Corbusier avec des tubulure en acier, qu'on retrouve d'ailleurs dans ses peintures plus tard.
Voilà, Charlotte Perriand qui va être à l'honneur de la Fondation Vuitton.
C'est ça.
En cette rentrée, il a quand même eu la reconnaissance qu'il méritait assez vite. C'est-à-dire qu'il n'a pas été non plus un peintre maudit, oublié.
Non, aucunement.
Et reconnu post-mortem.
Non, c'est pas Van Gogh, non, par exemple. Van Gogh, il y a beaucoup de points communs avec Van Gogh, hein, dans la touche et dans la manière de peindre, en fait. Et en fait, puisqu'on le rapproche de certains peintres, mais en fait, il y a beaucoup de Van Gogh.
On parlait de l'influence de la littérature sur son œuvre. On pourrait parler effectivement des modèles picturaux, des peintres qui ont pu le marquer. Vous disiez Van Gogh à l'instant. Si j'en reviens juste au livre, et si on se dit qu'il n'y avait pas de retranscription littérale de ce qu'il lisait dans ses peintures, il y avait aussi cette toile en cours de réalisation que vous découvrez dans son atelier et qui là est directement inspirée d'un vers ou des vers de Garcia Lorca sur la mort.
Oui, c'est ce qu'il m'avait expliqué à ce moment-là. D'ailleurs, quand je l'ai, enfin, il me fait visiter, visiter, c'est beaucoup dire. C'est une petite pièce, un peu grande comme une chambre, mais quand j'ai vu ce tableau qui était en cours. Il l'a tout de suite. Il m'a demandé de le poser contre dos au mur, de manière à ce que je ne vois pas ce qui est représenté. Alors évidemment, je l'ai interrogé quand même. Je dis mais qu'est-ce que c'est ? Je reconnais une arène. Il y a une forme de taureau et tout. Et là, il m'a dit mais c'est cette poésie donc que je rapporte dans mon livre, cette poésie de Garcia Lorca consacrée à un torero mort. Alors c'est très sanglant, c'est très violent. Et donc il recherchait toujours cette violence. Parce que c'était, il disait que la violence, de toute façon, la vie était violente et qu'il fallait la retranscrire d'une manière encore plus abrupte et qu'on resterait au-dessous de la réalité, que les peintures resteraient au-dessous de la réalité.
Et là, on retrouve un peu les grandes thématiques de son œuvre, la violence, le corps, la vulnérabilité des hommes, la mort, la condition humaine.
C'est ça, si on veut vraiment résumer, oui, la condition humaine, tout est là, évidemment.
Tout est là, ou presque, en compagnie de notre invité Franck Maubert. Aujourd'hui, on parle de Francis Bacon, à qui le Centre Pompidou consacre une grande exposition sur son rapport avec la littérature. L'exposition s'appelle Bacon en toutes lettres. France Culture, il est 12h16 et on va écouter Raphaël Saadic.
God is good, isn't it? I don't know about you, but we're here to have a good time in the Lord. We'd like to stop and sing you a song. We hope that you will enjoy it. My feet, my leg belongs to God. My thigh, yeah. Oh, belongs
figure de l'année au sol. Ça se termine comme ça, très cut, comme on dit. Il est dans l'actualité musicale, c'est l'américain Raphaël Saadic, de retour avec un cinquième album, Jimmy Lee, un album très personnel où il raconte le ghetto d'Oakland où il a grandi, sa famille au destin tragique, la mort de son frère par overdose. Voilà, Raphaël Saadic, avec ce très bel nouvel album, sera en concert en France. Le 19 octobre, ce sera au Château de la Pépinière à Nancy et le 21 octobre à l'Élysée Montmartre à Paris.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Moi j'admire Bacon, mais je me suis dit qu'il était presque impossible de l'aimer. C'est tellement terrible ce qu'on voit dans les peintures de Bacon.
De l'avoir chez soi, Yannick Enel.
Oh là là, je ne sais pas s'il est possible de supporter. Moi j'aimerais vivre dans un Cézanne, vous voyez. J'aimerais vivre dans des peintures plus apaisées peut-être. Mais avoir un Caravage ou un Bacon, enfin, ce serait être obligé de penser à la mort à chaque instant.
Voilà, Yannick Enel, qu'on entendra un peu plus longuement dans quelques instants. Franck Maubert, je ne vous demande pas si vous avez acheté un Bacon et si vous en avez un chez vous.
Non, non.
Mais peut-être une reproduction ou une affiche
dans votre
salon. Non,
non. J'en ai une, oui, dans ma salle de bain pour le moment. Bref.
D'autant qu'à la question de savoir si vous deviez choisir une toile de lui, vous dites...
Non, parce que c'est une œuvre globale. Bacon, qu'on prenne une crucifixion ou même ces vagues qu'il peint à la fin, enfin qu'il appelle jet d'eau d'ailleurs, parce qu'au départ il voulait peindre une vague et en fait il en a fait un jet d'eau, mais ou un personnage qui ressemble à un banquier de la City ou George Dyer sur les toilettes, etc. Enfin, je pense que ça raconte la même histoire et la même violence des êtres et dans leur désarroi, leur solitude, enfin. Tout tableau, et ça, même quand il peint un animal comme un chien. D'ailleurs, il y a un chien, notamment, pendant un moment.
C'est probablement parce que toute cette violence ou cette manière unique d'ausculter le réel et la violence du monde a parlé à beaucoup. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Bacon s'est inspiré de la littérature, mais il a lui aussi inspiré les écrivains.
C'est vrai.
Il y a vous, mais pas seulement. Il y a Michel Léris, Hervé Guibert, Claude Simon, Philippe Solers, Jonathan Little, qu'on entendait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils voient tous en lui? Qu'est-ce que vous voyez en lui? Quelle camaraderie vous avez aussi tissé, développé avec son œuvre?
Ben,
c'est noir quand même.
C'est noir, c'est une œuvre... Enfin, Bacon, il n'y a pas de repos chez Bacon. Donc, c'est passionnant parce qu'il y a plein de lignes de fuite. On peut imaginer beaucoup de choses. Il y a une grande part donc d'irrationnel, je disais tout à l'heure, et de mystère. Donc, ça laisse libre cours à beaucoup de possibilités. Chacun peut y apporter quelque chose.
Y projeter ses propres quoi?
Je sais pas, c'est pas des fantasmes, parce que je pense que sa vie était encore pire que ce qu'il peignait. Alors, il y a eu quand même 3 suicides violents autour de lui, d'être très très proche avec qui partageait la vie. Moi, un jour, il m'a dit, je crois que c'est même la première fois que je l'ai vu, il m'a dit, vous avez de la chance, j'ai pas un œil au beurre noir aujourd'hui. Enfin, parce qu'il rentrait cabossé parfois de ses nuits.
Voilà, et c'est comme ça que vous le décrivez aussi, hein. Cabossé, fragile, mais extrêmement courtois,
ah
et
oui.
Cordial et chaleureux. C'était pas ce monstre qu'on avait pu décrire.
Mais je pense qu'il avait un double... Il avait une multiple personnalité à multiples facettes. Hein. Il avait à la fois ce côté être homme du monde, délicat, courtois, élégant, et puis d'un autre côté, il avait un côté voyou, sans doute.
Alors, vous lui avez rendu visite dans son atelier de South Kensington à Londres,
oui.
La toute première fois. C'était vraiment le chaos dans lequel il disait aimer vivre. Vous décrivez « Jamais rien vu de tel, un autre théâtre, la vision est plus forte que ce que j'avais imaginé et vu ou lu. Il nous faut marcher sur un tas de compost, magma de débris divers, sédiments épais de matière accumulée jour après jour depuis des années. » Quel rapport il entretenait avec le réel? On va lui donner la parole, une fois encore, à Francis Bacon. Un peintre figuratif, disait-il, car le réel était important pour lui.
Je fais la peinture ce qu'on appelle réaliste, parce que l'abstrait ne m'intéresse pas, parce que pour moi c'est toujours, ça ne peut pas que aboutir dans la décoration, parce que ce qu'on appelle figuratif a toujours un grand côté abstrait, parce qu'il ne faut pas oublier que l'art est l'artifice. Alors, dans cette question, il y a toujours un grand côté abstrait, mais là, figuratif, veut aller plus loin que l'abstrait, parce que à la fin, l'abstrait n'a pas de raison. Tandis que avec la figuratif, on a toujours, même si on part très loin du sujet, on a toujours la raison qu'on a commencé à faire la peinture, c'est de retourner.
De retourner à la réalité, mais en faisant un détour.
Mais un grand détour.
Voilà, Bacon faisait des grands, grands détours. Vous, vous racontez bien, Franck Maubert, la place du hasard, de l'accident dans sa peinture et dans son processus de création.
C'est très important, et il est revenu plusieurs fois là-dessus, sur le hasard, l'accident, qu'on retrouve dans sa vie, puisque c'était un grand joueur. Et donc, en plus, il jouait à la roulette, où il y a beaucoup, il y a une part vraiment de hasard, enfin plus que dans d'autres jeux encore.
Le dernier modèle, c'était la dernière muse de Giacometti, oui. À qui vous avez consacré un livre, Franck Maubert, que vous aviez rencontré cette muse. Bacon aussi, il avait des modèles et une relation particulière avec eux.
Il avait des modèles parce qu'il ne peignait qu'avec des modèles, donc ses amis très très proches. Il a peint quelques femmes, dont Henrietta Moraes et Isabelle Rawthorn, qui a été modèle d'avant de Rhin, de Giacometti, de Balthus. Donc c'était un peu pour se mettre dans la lignée de ces peintres qu'il admirait aussi.
Ils s'étaient rencontrés ces deux-là?
Bacon et Giacometti absolument, très tardivement, puisque c'était deux ans avant la mort, en 64, deux ans avant la mort de Giacometti. Et ça s'est très bien passé, il avait une grande admiration pour Giacometti, pour l'homme et pour l'œuvre. Et qui n'est pas sans rapport, évidemment. L'œuvre, c'est la même chose. Ils parlent de l'homme, hein, l'un et l'autre.
Ils connaissaient Hockney aussi. Vous racontez une
oui, parce que Hockney,
qu'ils ont eu.
Oui, parce que Hockney, c'était la figure montante. Alors il se disait, il va me piquer la vedette, quoi. Grosso modo, c'était un peu ça. Mais oui, je les ai croisés une fois dans un restaurant. Enfin, j'étais avec Bacon et a surgi Hockney, c'était un jeu entre. Je l'ai compris pas sur le moment, mais juste après.
Deux grosses personnalités.
Oui, tout à fait.
On peut dire de Bacon que c'est donc la condition humaine qui est cruelle, pas le peintre qui en rend compte. Il était chaleureux, courtois, tel que vous le décriviez, et il avait la tête d'un homme sans âge, une tête d'oiseau de proie. Il dénudait la violence, dit de lui l'écrivain Yannick Haenel, qui a préfacé ses conversations parues aux éditions L'Atelier Contemporain, et qu'il rapproche du Caravage par sa nervosité, comme il disait, atteindre le système nerveux du regardeur.
Il y a un engagement total de l'être, et chez Bacon, et chez Caravage. Et je crois que la grande dimension nerveuse, Bacon dit tout le temps ça, enfin, qu'il cherche le nerf des choses dans sa peinture. La grande dimension nerveuse qui est à l'œuvre chez le Caravage, depuis ces fonds noirs qu'il invente en 1595, cette grande dimension, c'est celle qui va refonder la peinture, loin de l'idéalisation. Je crois que les deux peintres, et Bacon et Caravage, détestent l'idéalisme. Ils ont compris depuis longtemps que la Renaissance c'est fini, que l'harmonie du monde, l'harmonie des corps, tout ça est un mensonge. Ce sont deux peintres qui combattent le mensonge en acte. C'est-à-dire que les corps sont crus, le sexe est là, on va pas le recouvrir d'un quelconque voile. La violence, c'est le lien social lui-même, et ils peignent ça sans l'aimer. Évidemment, ce sont pas, encore une fois, ce sont pas des gens qui sont du côté du bien ou du mal, ils sont nulle part. Comme tous les grands artistes, comme vous savez, ils sont les témoins convulsifs de ce qui a lieu.
Voilà, on a ouvert sur le rapport vérité-mensonge, on refermera sur ces mots de Yannick Haenel, Franck Maubert, que vous validez, j'imagine,
totalement,
cette
mais
idée
oui,
de combattre le mensonge en acte, dans sa peinture, plutôt que dans ses discours.
Mais oui, de toute façon, c'est ce qui reste, c'est surtout quand même l'œuvre, son œuvre, c'est la peinture.
Et ce qui reste, c'est cette idée que chez lui, peindre, c'était un besoin primaire, un besoin vital. C'est en tout cas ce qu'il vous a dit aussi.
Oui.
L'art est un cri pour combattre l'étouffement. C'était ça, hein ?
Oui, j'aime beaucoup cette phrase, d'ailleurs. C'est... Oui, j'avais l'impression qu'il... Enfin, Il pouvait donner l'impression qu'il allait étouffer avec sa tête de batracien, comme un crapaud qui gonfle, comme ça, par moments.
Et voilà, et pourquoi il peignait. C'est un très joli petit livre que vous lui consacrez, Franck Maubert, avec Bacon, qui paraît chez Gallimard, récit de vos conversations, de cette rencontre, de cet homme que vous admiriez tellement, Merci. Et que vous avez enfin pu connaître. À lire ou à voir aussi le très beau catalogue de l'exposition sous la direction de Didier Oettinger, un beau livre, Francis Bacon ou la mesure de l'excès, paru aussi chez Gallimard. L'exposition dure Bacon en toute l'aide jusqu'au 20 janvier. Enfin, un film que nous avons cité, dont nous avons extrait la voix de Francis Bacon, d'Adam Lowe, Francis Bacon, L'homme et la reine, en 1984.